encore sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et avec moi aujourd'hui dans nos studios, deux invités. Je vous présente Olivier Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Et Roman Stadnicki, bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier Saint-Martin, vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université de Tours. Vous appartenez au laboratoire CITER, équipe Monde Arabe et Méditerranée. Est-ce que vous voulez expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste, toutes ces fonctions?
Puis enseignant, effectivement, dans ce qui est devenu le master de journalisme aujourd'hui à l'IUT de Tours. Et donc, j'enseigne pas la géographie en tant que discipline, comme le fait mon collègue Roman, ici dans le département de géographie, mais plutôt... finalement une géographie, une géopolitique, culture générale pour de futurs journalistes. Donc c'est une approche bien sûr un peu différente de la discipline. Et par ailleurs, effectivement, j'appartiens aussi à cette équipe, donc équipe Méditerranée, Monde Arabe Méditerranée de l'UMR CITER.
Alors juste une question, Olivier Saint-Martin, c'est quoi de la géographie à usage des futurs
journalistes? Qu'est-ce que c'est que la géographie à usage des futurs journalistes? C'est une bonne question. Ben, je vous dis, c'est une géographie, disons, qui doit servir la culture générale que tout journaliste doit avoir, et moi je l'oriente essentiellement sur des questions internationales qui sont moins abordées par les étudiants dans le cadre des autres enseignements. Alors, évidemment sur la région du Maghreb et du Moyen-Orient qui m'intéresse davantage, et bon, c'est une région qui a une grande place dans l'actualité, donc je pense que c'est important pour les étudiants, mais aussi d'autres grandes questions internationales, voilà, et pour qu'ils soient capables de décrypter à minima les grands enjeux autour aujourd'hui de la place des grandes puissances ou de l'émergence de l'Afrique ou de l'Amérique latine, par exemple, qui sont les différents thèmes qu'on aborde durant l'année.
Alors, c'est une région du monde qui est, comment dire, porteuse de fantasmes, peut-être de réalité erronée. Cette région-là, comment elle est perçue, en tout cas, par les étudiants
Non, mais c'est une bonne remarque, parce que je commence toujours comme ça, hein, en leur disant qu'effectivement, il y a beaucoup de fantasmes, de représentations. Hein, il y a un héritage très lourd, hein, qui vient évidemment du rapport de l'Orient à l'Occident, de toute la tradition de l'orientalisme. Donc, on commence toujours un petit peu à poser ce cadre-là pour leur expliquer qu'effectivement, en tant que futurs journalistes, ils ont une responsabilité sociale à essayer de décrypter au mieux les enjeux sans se laisser enfermer dans des fantasmes ou des représentations. Mais enfin, c'est difficile, hein, pour des journalistes, on le voit bien, parce que la pression et des rédactions et de l'opinion publique sur ces sujets. Bon, il y a des sujets qui, évidemment, sont très, très sensibles, hein, qui émanent de cette région ou en relation avec cette région. Et c'est vrai que pour des étudiants en journalisme, c'est assez compliqué, mais voilà, ils se prêtent bien au jeu et ils sont globalement intéressés et réceptifs. Il y a même des étudiants là, cette année qui sont partis au Liban, par exemple, enquêter. Alors ils sont partis l'année dernière, ils sont en deuxième année cette année. Ils sont partis donc au Liban une dizaine de jours pendant les congés de Noël, au moment où il y avait effectivement des manifestations importantes. Ils sont allés à Tripoli, ils ont fait un sujet à Tripoli. On a tous les ans des étudiants qui partaient en échange à Istanbul, notamment parce qu'on a un échange avec l'université Galatasaray. Donc il y a bien sûr toujours des étudiants qui sont particulièrement sensibles à cette région, qui sont intéressés par cette région. Là, cette année, parmi les nouveaux, il y en a qui aimeraient bien apprendre l'arabe et qui ont envie de s'intéresser davantage à cette région. Donc il y en a toujours un petit peu, bien sûr. Donc ça nous permet d'avoir voilà, des gens qui potentiellement, et on en a eu hein, historiquement, peuvent devenir des correspondants dans cette région du monde. Hein. Ça a été le cas de plusieurs anciens étudiants.
Merci Olivier Saint-Martin. Alors je me tourne vers Roman Stadnicki. Donc vous êtes également enseignant-chercheur, vous appartenez au laboratoire CITER et vous appartenez à deux équipes du laboratoire CITER, donc EMAM et l'équipe COST. Et vous êtes chercheur associé au CEFAS.
Oui, plus ou moins. Je suis toujours associé à ce centre de recherche qui relève à la fois du CNRS et du ministère des Affaires étrangères, qui est une originalité française. Hein. Nous sommes le seul pays à disposer d'instituts qui dispose de cette double tutelle, à la fois pour le financement par le ministère des Affaires étrangères, et donc qui est lié aux ambassades de France, et puis pour la recherche au CNRS. Alors ce centre a longtemps été basé à Sanaa, au Yémen, où j'ai réalisé ma thèse, et puis du fait de la situation politique et de la guerre au Yémen, le centre a été déplacé au Koweït, où j'ai également moi-même déplacé mes terrains de recherche. Donc je continue à travailler avec ce centre, tout en passant le plus clair de mon temps ici à Tours, et donc à mener mes recherches ici à CITER, au sein de l'équipe Monde Arabe et Méditerranée principalement, et puis j'enseigne plus classiquement qu'Olivier Saint-Martin, la géographie, au géographe au sein du département de géographie et aménagement du territoire.
Alors voilà, vous parlez de ce centre d'études, donc on peut citer peut-être le centre Jacques Berck à Rabat, je pense que ça relève des mêmes tutelles. Comment ça marche ces centres-là? Historiquement, vous avez dit, ils ont une place importante. Pourquoi ils existent encore?
Alors ils existent encore, ils ne sont pas forcément tous en bonne santé, parce que effectivement, certains pensent qu'ils appartiennent aussi à une époque un peu révolue, qui est celle qui consistait à envoyer dans des écoles françaises à l'étranger, dans les écoles françaises d'Orient, des chercheurs pour aller effectivement vivre et travailler sur place. En réalité, les centres que j'ai pu moi fréquenter disposent effectivement d'assez peu de moyens, mais de beaucoup d'énergie et de beaucoup de projets de coopération académique entre des chercheurs français et puis des universitaires locaux. Vous parliez du centre Jacques Berck au Maroc. Il y a quand même effectivement une tradition ancienne et puis renouvelée avec les moyens qui sont ceux d'aujourd'hui et qui sont effectivement moins importants que ceux d'hier, de projets de recherche, de coopération universitaire, de publications scientifiques importantes. Donc je crois que ce dispositif compte malgré tout dans le paysage scientifique et institutionnel de la recherche et de la coopération académique entre la France et les pays du Maghreb et du Moyen-Orient.
Comment ils sont perçus dans ces pays, ces centres-là?
Bon, ce sont des petits centres, ils n'ont pas non plus une... Vous savez, il doit y avoir 3 ou 4 chercheurs expatriés, plus des doctorants, plus un certain nombre de chercheurs associés, et ils sont de plus en plus nombreux, et c'est heureux qu'ils sont des gens qui... des Marocains, des Tunisiens pour le centre de Tunis, ou de plus en plus de Koweïtiens pour le centre, pour le CEFAS. Donc, ne connaissent ces centres que ceux qui y ont des intérêts communs, partagés, d'échanges scientifiques et autres projets. Alors, il y a des conventions qui sont de plus en plus signées entre justement ces centres et des universités locales, des centres de recherche locaux, pour essayer de sortir effectivement du principe de fonctionnement un peu franco-français, qui consistait effectivement à envoyer des chercheurs et puis à les faire revenir avec de beaux livres ou de beaux travaux. Donc la tendance actuelle est effectivement au développement de réseaux de plus en plus solides et de plus en plus ancrés localement afin de mettre en œuvre un vrai travail de coopération scientifique.
Voilà, donc sur les assises du journalisme, hein, cette édition spéciale Covid, on a pu échanger avec 2 représentants de l'atelier des médias, donc c'est Steven Jambot et Simon De Creuse, ils expliquaient que RFI s'appelait La Coloniale autrefois, donc qu'elle est encore très écoutée, au Maghreb, mais en tout cas en Afrique, et ils disent que peut-être on peut imaginer que le mieux ce serait qu'RFI disparaisse, parce que sur place, il y a des gens qui seraient en capacité de faire des médias d'aussi bonne qualité. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour ces centres-là, qui sont appelés à disparaître sous leur forme actuelle?
Bon, que ces centres soient chargés ou qu'ils incarnent une partie de l'héritage de la domination coloniale qui s'est effectivement peut-être poursuivi par une forme de domination intellectuelle, etc. C'est peut-être le cas. Vous savez, moi je suis un peu jeune pour m'en être rendu compte. J'ai passé 4 ans au Caire entre 2011 et 2015 dans l'un de ces centres qui s'appelle le CEDEJ. Et puis, je n'y ai pas vraiment vu ça. Hein. J'ai principalement vu quelques chercheurs comme moi qui découvrions à la fois ce pays et puis son actualité politique et sociale tout à fait nouvelle. Mon travail a plutôt consisté à aller voir effectivement un certain nombre de chercheurs, d'universitaires égyptiens pour essayer de comprendre ensemble ces situations sans sortir de mon champ de compétences qui est effectivement les études urbaines. Mais dans ce champ-là, j'ai effectivement passé 3 années d'échanges tout à fait fructueux, de discussions avec des collègues. Je n'ai pas passé 3 ans dans l'enceinte de l'Institut français du Caire, mais j'ai effectivement passé mon temps plutôt dans les universités locales. Et nous avons, et je crois que cela se voit aussi dans nos productions scientifiques, puisqu'on a sorti un certain nombre d'ouvrages et de revues scientifiques dans lesquelles beaucoup de nos collègues égyptiens ont pu aussi produire leur propre recherche. Donc c'est aussi une mission de ces centres d'aider aussi un petit peu nos collègues à publier dans des revues scientifiques en anglais ou en français et donc à participer aussi un petit peu à leur rayonnement international, puisque nous avons effectivement ces réseaux-là dont nous pouvons faire profiter nos collègues. Donc je crois qu'on sait, beaucoup d'entre nous ne vivons pas avec cet héritage, nous le connaissons, nous savons qu'effectivement, nous savons d'où viennent cette tradition de recherche dans ces pays, mais beaucoup d'entre nous, effectivement, travaillent de façon tout à fait décomplexée, en se mettant à l'arabe, en travaillant en anglais, qui est la langue internationale de la recherche, de façon, je veux dire, avec des pairs, hein, avec des collègues d'égal à égal. Donc je pense que voilà, de cette manière-là, ces instituts peuvent totalement continuer à exister.
Si je peux rajouter quelque chose, je pense que, effectivement, RFI est l'héritière du post-colonial, mais il est quand même très très loin, le post-colonial, hein, et RFI est une radio aujourd'hui qui a fait les preuves de son pluralisme et de son professionnalisme. Et c'est la même chose, hein, effectivement, comme le dit Roman, pour ces centres de recherche. Moi, j'ai passé aussi du temps au CEDEJ, donc en Égypte, un peu plus tôt que Roman, dans les années 90. Donc à une période très différente politiquement, hein, bien entendu, et c'est aussi des espaces de liberté académique dans des pays où elle peut parfois manquer et faire défaut dans certaines institutions. Et à l'époque, le CEDEJ avait plus d'ampleur qu'il en a aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de monde, il y avait des chercheurs associés égyptiens et des séminaires très réguliers dans lesquels des gens pouvaient venir exprimer des choses qu'il était parfois plus difficile d'exprimer ailleurs. Et donc je crois que, bien entendu, hein, encore une fois, il faut être conscient de ces héritages, mais ce sont aussi des lieux qui ont fait la preuve, voilà, de leur indépendance, de leur autonomie et de leur capacité à être aussi des lieux de stimulation intellectuelle et de recherche. Donc je crois que voilà, il faut avoir conscience de ces héritages, mais il faut pas sombrer dans les préjugés qui pourraient effectivement continuer à véhiculer.
Messieurs, vous appartenez tous les deux donc à l'équipe EMAM. Alors peut-être que vous voulez nous en dire plus.
Alors oui, on en parle avec d'autant plus de plaisir et d'enthousiasme de cette équipe que l'ouvrage que nous publions et qui nous rassemble aujourd'hui à Abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient est l'occasion d'une part de rendre hommage à cette équipe et à ses fondateurs et puis de témoigner aussi de son réseau actuel qui part de Tours, dont l'épicentre est Tourangeau, mais qui effectivement tisse une toile tout à fait impressionnante à l'échelle internationale. Donc c'est une équipe de recherche qui a 40 ans à peu près aujourd'hui, qui a été fondée par Jean-François Troin et Pierre Signol, à qui ce livre veut rendre hommage également, qui ont eu le courage il y a 40 ans d'imaginer qu'à Tours on viendrait travailler sur l'urbanisation du monde arabe. Donc il y avait, si vous voulez, deux niches, hein, à l'époque. Celle qui consistait à monter une équipe travaillant sur une aire géographique qui est celle du monde arabe et en plus un thème de prédilection qui est celui de la ville et de l'urbanisation. C'était assez osé il y a 40 ans. Et puis le travail s'est poursuivi pendant 40 ans. Alors l'équipe aujourd'hui, EMAM, est une équipe de recherche fondue au sein d'un laboratoire qui est pluridisciplinaire, qui est le gros laboratoire de sciences humaines et sociales de Tours, qui s'appelle CITER, vous l'avez dit, mais elle existe encore en tant que telle, elle est identifiée et reconnue, hein, en France et à l'international comme le pôle de recherche, quasiment le seul, en tout cas en Europe, où on travaille les questions urbaines, les processus d'urbanisation dans cette région du Maghreb et du Moyen-Orient.
Simplement sur le fait que, comme l'a rappelé Roman, cette équipe au départ s'appelle donc Urbama, Urbanisation du monde arabe. Son champ géographique s'est aussi petit à petit élargi au fil de son histoire, parce que le monde arabe, c'est la partie principale du Maghreb et du Moyen-Orient, mais c'est pas la seule. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui appartiennent à ce réseau, qui travaillent sur des pays comme la Turquie, ce qui n'était pas le cas à l'origine, comme l'Iran par exemple, ou même des pays du sud de l'Europe, hein. Donc il y a eu un élargissement aussi du champ géographique au fil de l'histoire de cette équipe.
Mais même peut-être le monde arabe, c'est compliqué déjà en soi
Oui, le monde arabe, on peut le définir relativement simplement, hein. C'est aussi une question qu'on aborde avec les étudiants, hein. Si on s'en tient à une définition stricto sensu, on va considérer que c'est les pays de la Ligue arabe, hein, c'est l'ensemble de pays qui ont la langue arabe comme langue principale et qui appartiennent à cette institution internationale qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, on pourrait élargir un petit peu, parce qu'il y a d'autres pays où la langue arabe est utilisée, mais de pays qui ne se définissent pas nécessairement comme appartenant au monde arabe. Donc la première définition, c'est effectivement celle-là, et on élargit un petit peu le champ donc à d'autres pays du Moyen-Orient, donc comme je viens de dire, comme la Turquie ou l'Iran, qui incontestablement sont évidemment dans ce champ politique, culturel, même si c'est linguistiquement différent.
Avant de parler plus en détail de cet abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient, voilà, dans la collection Ville et Territoires parue aux presses universitaires François Rabelais, messieurs, je vous propose une pause musicale et nous allons écouter Férouz. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Toujours avec Olivier Saint-Martin et Roman Stadnicki. Messieurs, vous êtes venus nous présenter cet abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient, sous la direction de, faut citer quand même toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, Bénédicte Florin, Anna Madoff, Olivier Saint-Martin, donc Roman Stadnicki et Florence Troin. C'est paru aux presses universitaires François Rabelais. Alors messieurs, est-ce que vous voulez nous donner à voir comment est constitué cet ouvrage?
Bon, alors ce choix d'abécédaire résulte de débats, de discussions entre nous, puisque le point de départ de cet ouvrage était quand même cette idée d'hommage aux deux fondateurs de l'équipe, donc qu'ont été Pierre Signol et Jean-François Troin. Et on a cherché une forme un peu plus originale que les mélanges qu'on dédie traditionnellement aux anciens et aux maîtres, pour faire quelque chose donc d'un peu plus moderne, un peu plus original et aussi d'accessible à un plus grand public. Je crois que c'était une des volontés qui nous a animés quand on a préparé ce projet. Et donc l'idée de faire un abécédaire qui n'allait pas de soi en termes éditorial pour un éditeur scientifique comme les Puffres notamment, et pour d'autres éditeurs également. Cette idée d'abécédaire, finalement, a séduit tout le monde, et elle a très bien fonctionné parce qu'elle a permis de solliciter, donc il y a une centaine d'auteurs qui ont contribué avec des textes qui sont relativement courts, donc ça permet de faire contribuer beaucoup de monde, et donc de ranimer en quelque sorte ce réseau sur lequel c'était, enfin, que l'équipe a constitué au fil des décennies, comme l'a rappelé Romane tout à l'heure. Et donc cet abécédaire, il a plusieurs types d'entrées, à la fois des entrées proprement géographiques, hein, notamment précisément des villes. Hein. Donc toutes les capitales de la région ont leur article, plus d'autres métropoles, au gré des opportunités des auteurs capables de les traiter. Et puis ensuite, des entrées, disons, qu'on va qualifier de plus thématiques, hein, qui renvoient soit à des notions, des concepts, des objets. Et puis on a rajouté quelque chose qui fait aussi l'originalité de l'ouvrage, hein, selon nous, hein, qui sont des encadrés dédiés soit à des œuvres de fiction, hein, par exemple, qui peuvent prolonger un certain nombre de notices, soit à des questions, des événements plus spécifiques, soit encore, ça a permis d'ouvrir aussi l'abécédaire à de jeunes chercheurs, des doctorants, qui ont pu exprimer, avec des textes très courts évidemment, donc c'est très contraignant, c'est pas toujours évident, leur recherche en cours sur un certain nombre de sujets. Donc tout ça compose cet abécédaire qui, par définition, hein, donc est hétéroclite, bien entendu, hein, ne prétend pas du tout à l'exhaustivité. Il y a d'ailleurs des choses qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'a pas pu avoir, hein, et puis inversement, des choses auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé au départ, qui ont finalement trouver leur place. Donc cet abécédaire s'est composé de cette manière. C'est un processus qui a été relativement long, hein, il faut quand même le dire, hein, c'est 3 ans de travail, hein, pour aboutir à ce résultat, qui est assez, on doit le dire, bon, unique, hein, dans sa forme, en tout cas sur cette région du monde. Hein. Il existe bien sûr des ouvrages de ce type sur d'autres espaces ou d'autres thèmes, mais là en l'occurrence il est assez novateur dans sa forme en tout cas.
Voilà, donc on voit une liste impressionnante quand même des contributeurs. Hein. Donc vous avez dit des personnes. Comment on fédère tous ces auteurs? Comment on passe commande d'un article? Est-ce que c'est eux qui se sont proposés? Parce que vous parliez de réseau tout à l'heure, entre laboratoires. Comment on fait? Parce que c'est énorme.
Bien oui, il y a 99 auteurs, plus exactement 94 si l'on exclut les 5 contributeurs que nous sommes, mais qui avons aussi produit nos propres notices dans cet abécédaire. Alors, cette liste impressionnante d'auteurs, elle est effectivement le reflet de ce réseau, d'un réseau finalement très élargi, parce que dans l'annonce du projet, il y avait effectivement cette dimension hommage, comme on l'a rappelé, à notre équipe Tourangelle et à ses pères fondateurs, mais il y avait aussi l'envie de renouveler aussi un petit peu avec des textes courts la recherche urbaine actuelle, notamment considérant que l'année 2011 n'est pas une année zéro pour la région sur laquelle nous travaillons, mais quand même une année qui a vu la région basculer dans un processus de changement politique et social fantastique, qui est finalement le premier processus de ce type depuis les décolonisations pour la région Maghreb et Moyen-Orient. Et beaucoup de chercheurs, y compris notamment de jeunes chercheurs, ont réalisé leur terrain, leurs enquêtes dans cette période-là, dans cette décennie 2010. Et les effets de ces changements sur la ville, sur l'urbanisation, sur les cultures urbaines, sur un certain nombre de sujets qui sont traités dans le livre. On peut penser aux arts de la rue et à d'autres, à la production littéraire et cinématographique, ont été effectivement marqués par ce processus de changement. Donc beaucoup des auteurs ont été effectivement enthousiastes par ce double projet qui consistait effectivement à marquer un petit peu le coup et à rendre hommage à notre équipe de recherche Tourangelle, et également beaucoup de ses contributeurs y ont vu l'occasion de pouvoir redire et actualiser un certain nombre de leurs recherches.
Donc on voit, il y a aussi des cartes dans cet ouvrage, il y a de nombreuses cartes. Alors qui les a construites pour cet ouvrage?
Alors donc parmi les coordinateurs de l'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure, donc il y a Florence Troin, qui est ingénieure de recherche CNRS à l'équipe CITER et qui est cartographe. Donc c'est elle qui a réalisé donc ces cartes, soit à partir de travaux avec lesquels, enfin, elle a travaillé avec des auteurs qui ont déjà travaillé sur des cartes et elle les a, disons, harmonisées, soit elle a créé un certain nombre de cartes. Donc pas mal de métropoles sont accompagnées effectivement d'une carte qui renvoie évidemment au processus d'urbanisation. Les plus récents concernant ces villes, même si effectivement toutes les cartes ne sont pas exactement sur le même modèle, puisqu'elle a travaillé avec un certain nombre d'auteurs, donc certains auteurs ont rapporté des informations qui ont nourri certaines cartes, donc certains thèmes sont privilégiés pour certaines cartes et d'autres pour d'autres. Voilà.
C'est une discipline à part entière, la réalisation de cartes?
Alors, bien sûr, hein, c'est même un art, hein, on va dire, la cartographie. Alors, elle est bien sûr au service de la discipline, mais elle a aussi, elle a acquis d'ailleurs, hein, ces dernières années, une forme d'autonomie d'une certaine manière, hein, parce qu'on peut exprimer beaucoup de choses par les cartes, et puis aujourd'hui, les moyens techniques qui sont à notre disposition permettent aussi, hein, de réaliser des choses extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on revient à des formes plus traditionnel, hein, enfin, on le voit aujourd'hui dans la presse, hein, par exemple, où la carte faite à la main, par exemple, revient pas mal. Hein. Il y a tout un courant aujourd'hui de cartographie qui renoue avec, évidemment, la tradition manuelle de la carte, même si ça trouve sa place avec des outils de communication qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais il y a un grand succès, hein, d'ailleurs, éditorial et médiatique de la cartographie. Hein. Il suffit de voir l'émission le Dessous des cartes, hein, par exemple, qui part de la carte, hein, pour décrypter la réalité. Mais en même temps, voilà, il faut aussi faire attention parce que la carte peut créer sa propre réalité, donc il faut toujours garder quand même ses distances.
D'autres ressources dans ce livre, donc évidemment les articles publiés par des chercheurs ou des doctorants, mais il y a aussi de nombreuses photographies ou illustrations. Alors ça, c'est pareil, comment vous les avez sélectionner ces photos, d'où elles viennent?
Alors, effectivement, l'idée, c'était aussi de faire un livre et puis, pourquoi pas, un beau livre. Qui dit beau livre, dit image, surtout quand on est éditeur et qu'on cherche à vendre des livres, et c'est bien compréhensible. L'avantage d'avoir un livre composé de 99 auteurs, c'est que vous avez autant d'apprentis photographes que d'auteurs. Et d'ailleurs, un peu plus qu'apprentis pour certains, puisqu'il faut citer Pascal Garret, qui est un photographe professionnel et qui a fourni peut-être à peu près 50% des images de ce livre. Beaucoup ont été aussi fournis par les auteurs eux-mêmes. Florence Troin est une photographe compulsive et elle a aussi fourni un certain nombre d'images. Donc voilà, alors il y avait une vraie envie effectivement d'illustrer le propos et de rendre accessible le livre, et donc ça passe un peu par l'image, avec effectivement le risque que l'image vienne réduire le propos d'un thème ou d'une ville. Donc c'est toujours un peu risqué. J'espère qu'on a échappé à cette qu'on a évité cet écueil, effectivement, de l'assimilation d'une idée ou d'un thème à une photographie, et qu'elles sont effectivement qu'elles constituent un vrai apport au livre, avec les cartes, avec un certain nombre de croquis aussi, qui enrichissent finalement sa dimension illustrative.
Voilà, donc ça veut dire que ces ressources-là, elles viennent compléter les articles.
Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut le prendre, et puis c'est un livre qui peut se lire par n'importe quel bout, et d'ailleurs on peut commencer, on peut y accéder par une illustration, par une carte ou par une image, et puis lire le texte qui lui correspond. Je crois que de ce point de vue-là, effectivement, le livre étant un pavé d'un million et demi de signes, donc qui représente peut-être effectivement l'équivalent de deux livres, hein, finalement, en termes de volume. C'est assez, pour sa respiration, c'est assez bien de pouvoir effectivement alterner le visuel et le texte.
Mais parce qu'il y a des articles, donc vous expliquez sur des choses précises, mais je pense qu'on peut aussi lire cet ouvrage de façon plus horizontale, c'est-à-dire en regrouper les articles selon différentes thématiques.
Absolument, nous avons essayé de le faire, notamment avec la quarantaine d'encadrés qui viennent effectivement compléter ou faire un focus particulier sur une entrée ou sur une autre. Je pense par exemple, à un encadré sur le succès des produits made in China dans les souks et dans les marchés de la région, qui vient effectivement compléter l'entrée commerce. Il y a également un encadré, par exemple, sur les manifestations du parc Gezi à Istanbul, qui a été un moment important dans la mobilisation urbaine stambouliote en 2013, qui vient illustrer la notice sur les mobilisations ou sur les révolutions ou sur les printemps arabes. Donc on a essayé effectivement de nous-mêmes créer ce type d'association. Et après, effectivement, vous avez tout à fait raison, et là c'est sans fin, c'est au lecteur aussi, je pense, de pouvoir lui-même créer ses propres correspondances entre les notices et de ne pas forcément respecter l'ordre alphabétique pour le lire, ce qu'on ne fait jamais d'ailleurs dans n'importe quel dictionnaire.
Il y a des articles qui se répondent de façon inattendue. Donc, vous avez des chercheurs qui ont produit des articles et en fait, il y a des échos entre leur production qui n'étaient peut-être pas attendus.
Bah, nécessairement, il y a des échos. Après, effectivement, les gens ont travaillé indépendamment les uns des autres. Bon, par ailleurs, il y a quand même une règle qu'on avait essayé d'imposer à tous les auteurs. C'est-à-dire qu'on voulait que les gens sortent de leur champ de recherche initial pour trouver des exemples de leur thématique dans d'autres pays de la région. Donc on avait essayé d'imposer aux auteurs de dire vous cherchez au moins 3 ou 4 exemples par rapport à votre thématique ailleurs que sur votre terrain principal, ce qui n'était pas le plus évident, hein, mais beaucoup d'entre eux ont joué ce jeu. Et donc finalement, en allant chercher c'est vrai, d'autres exemples, eh bien, ils sont comme ça arrivés parfois sur le terrain des autres. Et donc, on peut trouver de cette manière-là des échos entre les différents articles. Par ailleurs, évidemment, il y a des grands champs, des grands thèmes de la recherche urbaine qui sont un peu transversaux et qu'on va retrouver dans un certain nombre, bien sûr, de notices. Roman évoquait tout à l'heure la question du commerce, hein, qui joue un rôle fondamental et qu'on va retrouver comme ça décliné sous diverses formes dans le livre. On peut penser aussi à la question des marges urbaines, par exemple, hein, ou des quartiers précaires, hein, qu'on va retrouver traités aussi de diverses manières, avec certains exemples qui reviennent un peu systématiquement parce qu'ils sont importants et bien documentés, et puis d'autres qui vont être un petit peu plus inattendus et qui correspondent aussi, bon, à des champs de recherche et des thématiques qui ont été travaillées par l'équipe. Hein. Il y a eu un gros programme sur les marges qui a précédé ou accompagné, disons, le travail sur cet ouvrage. Donc évidemment, il y a des correspondances. Il y a aussi derrière ça, finalement, on retrouve à travers le réseau en lui-même des grandes thématiques, hein, finalement, qui ont intéressé les chercheurs de ce réseau depuis très très longtemps, autour de ce qu'on appelle par exemple l'urbanisation informelle, hein, qui est quelque chose qu'on retrouve décliné sous diverses formes aussi dans l'ouvrage, parce que c'est des formes urbaines qui occupent une place très très importante, hein, dans les métropoles et les villes de cette région du monde.
Alors ça veut dire, puisque vous avez, alors, injonction, peut-être que le mot est fort, mais vous avez demandé en tout cas à ces chercheurs de se décaler de leur zone de confort, entre guillemets. Donc ça veut dire que c'est la demande peut-être, enfin, c'était pas formulé comme ça, mais l'idée c'était de dire c'est pas du recyclage, c'est-à-dire que vous avez demandé de faire des articles exclusifs pour cet ouvrage. L'idée c'était pas de reformuler un travail déjà fait, mais bien de produire.
Ah, absolument. Absolument. Et ben, c'est aussi l'originalité. Je crois que ça a d'ailleurs plu aux auteurs, hein, qui s'y sont conformés. Alors, plus ou moins facilement. Hein. Il y a des gens pour lesquels les choses sont peut-être moins évidentes que pour d'autres, mais globalement, voilà, tout le monde a quand même bien joué le jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est la petite distinction qu'on a faite tout à l'heure entre monde arabe d'un côté et puis aujourd'hui ce champ un peu élargi Moyen-Orient. C'est-à-dire Maghreb et Moyen-Orient, donc un champ un peu plus élargi que monde arabe, qui a obligé des gens qui avaient travaillé, par exemple, exclusivement sur le Maghreb, à essayer de chercher aussi des correspondances et des exemples avec des choses qui se passaient un petit peu ailleurs, ce qui n'était pas forcément effectivement évident pour tout le monde, mais qui globalement a bien fonctionné.
Le format lui-même des textes est tout à fait inédit, car en réalité, il est un peu... c'est un peu un entre-deux, si vous voulez. Les textes sont un peu trop longs pour une entrée de type dictionnaire un peu plus classique, mais trop courts pour constituer un article scientifique qu'ont l'habitude de produire les uns et les autres. Donc rien que par par son format, il a été, les contributeurs ont été obligés effectivement un peu de se réinventer et de produire quelque chose d'inédit. Et vous parliez effectivement des correspondances. Je crois qu'on retrouve quand même dans ce livre, et c'est aussi l'une des marques de fabrique de notre équipe Tourangelle, on retrouve dans ce livre le souci d'aborder la région et ses villes par ses habitants, par la vie quotidienne, finalement par l'ordinaire et le banal, si vous voulez, la façon dont les gens vivent au quotidien, travaillent, se déplacent dans ces villes. Et je crois que c'est, je le dis comme une marque de fabrique de l'équipe, parce que au moment où effectivement les uns et les autres, sans viser personne, mais ont tendance à aborder la région plutôt de façon surplombante, par les grands enjeux politiques et géopolitiques, par les crises, par les conflits, même si cette dimension n'est pas absente du livre, je crois qu'il y a effectivement un peu, de façon transversale dans le livre, ce souci, et qui témoigne aussi d'une grande expérience de terrain des contributeurs, notamment de nos collègues qui vivent dans les pays en question, hein, et donc de nos collègues du Sud, pour faire simple, et qui reflète aussi cet ADN de l'équipe Monde Arabe et Méditerranée à Tours, qui est effectivement d'aller plutôt travailler au ras du terrain, dans les espaces quotidiens de ces villes, tout en ayant sur elles aussi un regard diachronique, puisque beaucoup de ces chercheurs, effectivement, certains sont jeunes, je le disais, mais d'autres sont assez expérimentés et donc travaillent leur terrain depuis 10, 20, 30 ans, et donc sont capables à la fois d'en restituer les grands processus de changement, de modernisation, de développement, tout en restant effectivement capables d'en comprendre les enjeux, voilà, de la vie quotidienne.
C'est-à-dire qu'il existe des géographies, là, une géographie de l'ordinaire.
Cela pourrait être une façon, effectivement, de résumer, même si ça n'est pas un livre de géographes. Il y a des historiens, des économistes, des anthropologues, hein, donc c'est un ouvrage un peu pluridisciplinaire, mais de chercheurs qui ont pour centre d'intérêt commun la ville. Mais effectivement, cela pourrait être l'un des pieds forts, voilà, de l'équipe, d'être dans cette analyse de l'ordinaire, voilà. Alors, personne ne se revendique d'un champ de recherche qui irait travailler l'extraordinaire. En tout cas, bon, ça n'est pas une posture à défendre, si vous voulez, mais c'est peut-être une originalité locale, voilà, de ne pas forcément aller vers les sujets un peu attendus. Que seraient les guerres, les conflits, les alliances internationales autour des enjeux politiques de la région. Voilà, mais d'aller travailler les choses à une autre échelle, qui est effectivement celle de la rue, hein. La ville, ça commence par la rue, par le quartier, et plutôt au contact effectivement des acteurs ordinaires que sont les habitants de ces villes.
Je vous propose, messieurs, de faire une seconde pause musicale avant de parler plus en détail de certains de ces articles. Et je vous propose d'écouter Machrou Leïla. D'ailleurs, c'est vous qui nous proposez d'écouter Machrou Leïla. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus, quelques mots sur ces artistes ?
Machrou Leïla, c'est un groupe libanais à l'origine, que moi j'ai eu la chance de voir en concert en 2014 au Caire, dans un grand barnum, planté in extremis sur le parking de l'IKEA du Caire, là où il y avait encore un peu de place dans la ville pour accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Donc c'est un groupe effectivement qui a émergé un peu concomitamment au printemps arabe et qui a rencontré un succès énorme auprès de la jeunesse urbaine. Et alors, je dirais que c'est un groupe qui probablement reflète aussi un peu le choc des générations dans la région. C'est-à-dire qu'il est autant adoré par la jeunesse urbaine, connectée, ouverte sur l'extérieur, que détestée par une frange peut-être plus conservatrice de ces pays, puisque ils ont été un petit peu empêchés de se produire. Le chanteur milite dans des organisations de défense des droits des homosexuels. Ça lui a effectivement valu quelques remontrances. Ils ont aussi pris des positions politiques plutôt de défense et de soutien des révoltes populaires, et donc des prises de position contre les pouvoirs militaires. Donc voilà, on est là dans un vrai phénomène culturel, artistique et musical, mais qui en même temps, comme souvent dans la région, et incarne aussi des dissensions, des oppositions, et je crois là qu'ils sont aussi marqués par quelque chose de l'ordre effectivement du choc des générations, hein, et non pas du choc des civilisations, puisque nous sommes aussi dans une région majoritairement jeune. Qui a battu le pavé en 2011 et qui rencontre sur le terrain quelques tensions, quelques prises de bec avec des aînés qui effectivement ont du mal à suivre un peu le rythme des évolutions culturelles.
Et alors, vous précisiez tout à l'heure aussi hors micro qu'il y a un lien entre ce groupe et une histoire de drapeau arc-en-ciel.
Oui, parce que effectivement, un autre concert de ce groupe au Caire, hein, un petit peu plus récemment, a été médiatisé parce que lors de ce concert, une jeune femme égyptienne, Sarah Egazi, a brandi un drapeau LGBT. Elle a été photographiée, comme souvent dans ce genre de contexte, par un téléphone mobile. Cette photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et cette affaire a valu à cette jeune femme d'être incarcérée, torturée pendant plusieurs mois par les services de sécurité égyptiens. Elle s'est exilée à cause de cette histoire et le drame de l'affaire, c'est qu'elle a fini par se suicider à Toronto où elle avait donc trouvé refuge. Donc c'est une histoire singulière qui illustre de manière tout à fait dramatique, hein, les tensions dont Roman vient de parler, qui sont effectivement liées aux aspirations de cette jeunesse très nombreuse dans cette région, que ce soit des aspirations culturelles, sociales ou politiques, et le choc, peut-être plus encore qu'avec les générations les plus anciennes, mais avec simplement les régimes, hein, oui, aujourd'hui autoritaires, hein, avec la restauration d'un autoritarisme, parce que cette région a fait face à un mouvement, une contestation très importante, bien sûr, à partir de 2011, mais il faut rappeler que la contre-révolution, les contre-révolutions ont été extrêmement brutales et violentes dans beaucoup de pays, et ça s'illustre dramatiquement aujourd'hui en Égypte, où on a le retour d'une dictature militaire tout à fait impitoyable pour ses opposants.
نحنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوا كل قطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يقاسوك حتى تبيع حريتك ما يضيع I'm sure.
écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tour, en studio avec moi, Roman Stadnicki et Olivier Saint-Martin. Alors messieurs, pour continuer sur cet abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient, voilà, j'ai repéré dans cet ouvrage donc, les articles que vous avez publiés, que vous avez proposés pour cet ouvrage. Et alors, j'ouvre cet ouvrage et je tombe par exemple sur « Printemps arabe » de Roman Stadnicki. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire de cet article ?
Je n'étais pas le seul à considérer dans ce livre que les révolutions arabes qui ont démarré en 2011, qui se sont un peu poursuivies plus discrètement dans des villes plus petites en 2016-2017 et qui ont resurgi fortement dans des capitales en 2019 qui ne s'étaient pas mobilisées en 2011, que sont Alger, Bagdad, Beyrouth, Khartoum au Soudan, qu'il y a là effectivement un processus de changement très fort, en dépit effectivement du retour à l'ordre ou de la contre-révolution dont a parlé Olivier tout à l'heure, incarnée par les pouvoirs militaires, hein, qui sont souvent restés pas très loin de la scène politique. Mais en dépit de cela, il y a un vrai processus de changement qui dure, qui n'est probablement pas achevé, et qui marque les villes au moins de plusieurs manières. D'abord, parce qu'il y a dans les villes et dans la façon dont elles se sont développées, notamment très récemment, des racines évidentes de la contestation, dans l'ampleur prise par, effectivement, les quartiers dits informels, en dehors de toute réglementation, où règne, effectivement, l'auto-organisation, alors avec parfois des compétences tout à fait remarquables, hein, des habitants, mais qui ont nourri effectivement un sentiment d'abandon, de délaissement des autorités publiques. Donc des racines urbaines évidentes, et puis des conséquences aussi au plan de la ville, hein, on en parlait effectivement sur cette jeunesse qui s'est mobilisée et qui trouve aujourd'hui d'autres façons de se mobiliser. On le sent dans tous les milieux finalement culturels locaux, que ce soit à l'université, que ce soit par l'expression artistique. Il y a effectivement un prolongement de cette énergie mobilisatrice de 2011 dans d'autres dimensions aujourd'hui de la vie urbaine. Donc c'est ce que j'essaye de dire en essayant d'analyser les effets de ces printemps arabes sur les villes de la région et plus largement effectivement sur l'identité, peut-être on pourrait le dire comme ça, et sur la culture urbaine.
Et alors, il y a un encadré à côté de cet article de Nora Semoud et Florence Troin. La petite histoire raconte la grande. Alors là, comment le choix a été fait de mettre en...
Alors voilà un encadré qui fait état ou qui recense une œuvre de fiction, puisque l'encadré consiste à raconter le dernier livre de Ala El Aswani, qui est un auteur, un romancier bien connu, égyptien, bien connu notamment des lecteurs français, puisqu'il est publié chez Actes Sud en France, et que ses livres sont toujours aussi un succès en France. Il s'est fait connaître par un ouvrage qui s'appelle « L'immeuble Yacoubian » en France, et qui est une chronique, si vous voulez, de la vie ordinaire urbaine égyptienne à l'échelle d'un immeuble. Et petit à petit, son écriture s'est transformée, s'est un petit peu radicalisée, entre guillemets, parce qu'en tout cas, il est la cible aujourd'hui des autorités égyptiennes, c'est quelqu'un qui aujourd'hui revendique aussi un positionnement un peu révolutionnaire, et en tout cas qui affiche des positions hostiles à l'égard du pouvoir en place en Égypte. Et dans ce dernier livre, « J'ai couru vers le Nil », il raconte le destin, hein, croisé de plusieurs personnages qui tous ont été pris dans ce processus révolutionnaire. Alors, avec des désenchantements pour certains, des destins un peu brisés pour d'autres. Et dans tous les cas, et en toile de fond, effectivement, la ville du Caire, qui est toujours très 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 finement relaté dans les écrits d'Ala El Aswani. Et donc nos collègues Nora Semoud et Florence Troin, qui, euh, qui d'ailleurs se livre régulièrement à l'exercice du commentaire littéraire et notamment du commentaire géographique des œuvres littéraires. Hein. Elle voit de l'espace et des significations géographiques et spatiales partout, et donc elles en font effectivement ici une recension qui à la fois redit à quel point cet auteur, Alaa El Aswany, prend des positions et se revendique de la révolution égyptienne, et en même temps à quel point la ville est probablement le personnage principal, la ville du Caire est le personnage principal de l'œuvre d'Alaa El Aswany plus globalement.
Si je peux rajouter peut-être quelque chose, c'est que, encore une fois, on a là l'exemple d'un auteur qui dans la vie civile est dentiste, qui s'est finalement inscrit en littérature relativement tardivement, qui est un auteur critique du pouvoir à travers ses écrits, mais qui aujourd'hui ne peut plus travailler librement en Égypte, donc il s'est exilé lui aussi, cet ouvrage-là même était interdit. Donc on voit bien à quel point effectivement la contre-révolution dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui pèse très très fortement hein, sur la production culturelle et littéraire. D'ailleurs, c'est son dernier roman, mais il a écrit aussi un petit essai l'année dernière qui s'appelle Syndrome de la dictature. Donc, il a essayé d'illustrer. Alors, c'est pas un spécialiste de sciences politiques, hein, donc il s'est livré à un essai très personnel, mais qui effectivement essaie de comprendre un petit peu à travers essentiellement l'exemple égyptien, mais il en prend beaucoup d'autres, hein, comment aujourd'hui le retour hein, de ces logiques dictatoriales dans son pays d'origine, mais aussi plus largement dans l'ensemble de la région, et qui ont des effets évidemment sur les villes et sur le quotidien, comme le rappelait Roman tout à l'heure.
Et alors, vous proposez, Olivier Saint-Martin, un article sur les frontières, il me semble.
Oui, alors bon, moi j'ai moins travaillé que pas mal de mes collègues sur le champ urbain en tant que tel, hein. Je me suis plus inscrit dans une géographie qu'on qualifiait avant de régionale, et je me suis beaucoup intéressé donc aux questions de frontières. Donc j'ai essayé d'illustrer dans cet article de quelle manière la frontière est une de ces formes d'expression aujourd'hui que sont les murs, alors qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs implantés sur les frontières étatiques en tant que telles, mais comment ces dispositifs de clôture, de fermeture ont proliféré, et notamment effectivement dans la période post-révolution. D'ailleurs, il y a une des images qui illustre l'article, qui est une photo de Roman qui illustre des dispositifs qui ont été mis en place dans le centre-ville du Caire pour bloquer l'accès à certains espaces publics et mieux contrôler justement les circulations dans le centre-ville à l'issue de la Révolution, ou une autre image qui illustre un exemple bien connu qui est le mur construit donc par les Israéliens le long de la ligne verte, hein, même s'il prend beaucoup de liberté avec celle-ci, c'est-à-dire la limite qui sépare le territoire de l'État d'Israël de la Cisjordanie. Et donc, montrer à quel point ces murs sont à la fois, bien sûr, des dispositifs politiques qui essayent d'incarner la domination, la différence, mais qui sont aussi des éléments de structuration et peut-être plus encore de déstructuration hein, de la vie quotidienne des gens, alors que ce soit dans les exemples qui sont pris là, à Bagdad, en Cisjordanie, ou au Liban, hein, où l'exemple d'un camp palestinien à Saïda, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui complètement enclos dans un mur. Et puis d'autres exemples un peu moins connus et plus lointains, notamment sur une oasis marocaine qui s'appelle Figig, à la frontière avec l'Algérie, qui a, ces dernières décennies, vu son destin totalement bouleversé par la présence de cette frontière. Et ces dernières années, cette frontière n'a fait que se durcir, encore une fois, bouleversant singulièrement le quotidien des habitants, les empêchant d'accéder à leur terroir, en étant un accélérateur de l'émigration. Je crois que c'est une thématique aussi très très forte qu'on retrouve dans beaucoup de sujets, hein, c'est les mobilités des populations. Et ces éléments font partie, effectivement, aujourd'hui, hein, de ces outils, finalement, d'éviction des populations, ou des populations qui sont contraintes au départ en raison d'une pression sécuritaire extrêmement, extrêmement forte.
Et alors, il y a ici aussi un encadré, ville frontalière, ville frontière, point d'interrogation. Adrien Fouché.
Alors c'est un article qui s'intéresse essentiellement à la présence des réfugiés, et notamment des réfugiés syriens en Turquie, puisque la région frontalière, effectivement, entre la Turquie et la Syrie a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie, un très très grand nombre de réfugiés. Il faut pas oublier que la Turquie reste le premier pays d'accueil des réfugiés syriens aujourd'hui. Et donc effectivement, ces villes frontières ou frontalières se sont vues, alors c'est parfois des dynamiques un peu paradoxales, mais dynamisées, voire redynamisées par la présence de ces réfugiés qui sont arrivés aussi, évidemment avec leur misère, mais pour certains d'entre eux aussi avec leurs compétences, leur savoir-faire, et ont ranimé à partir de là un certain nombre de réseaux, de communications, mais aussi de commerce, d'échanges. Et c'est une des réalités importantes, je crois, de la région aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que à travers les tensions et les conflits, on a aussi une recomposition finalement des flux d'échanges entre les différents espaces régionaux qui sont portés par ces migrants qui se constituent en diaspora dans les pays où ils ont trouvé refuge. C'est vrai évidemment du Liban par exemple aujourd'hui.
On pourrait inviter certains politiques peut-être à lire, en tout cas à parcourir cet ouvrage.
En tout cas, on peut inviter tous ceux qui ont envie de peut-être décentrer aussi un peu le regard, voilà, c'est-à-dire de peut-être débrancher un petit peu les grands médias qui abordent souvent un peu rapidement les grands enjeux que traverse la région, et que nous pouvons effectivement provoquer ce décentrement, changer d'échelle. Je le disais, c'est aussi peut-être une spécificité ou une déformation professionnelle heureuse de la géographie, d'être capable effectivement à partir d'un même phénomène, celui des migrations par exemple dont parlait Olivier, d'en voir aussi les répercussions, les implications à des échelles plus locales, voilà. Et donc là, ce qui se passe du côté effectivement des villes entre la Turquie et la Syrie, avec des dynamiques plurielles finalement, des effets de ces mobilités, est l'un des exemples qui montre qu'il est important et pertinent effectivement d'à la fois de provoquer un peu de décentrer, de changer un petit peu de focal d'analyse, et puis en même temps de laisser aussi s'exprimer les situations locales, voilà, à cette échelle-là.
Donc on peut rappeler une dernière fois où trouver cet ouvrage, donc les Presses universitaires François Rabelais. Ça s'achète en ligne, je pense.
Alors ça s'achète en ligne et également dans les bonnes librairies, parce qu'il y a une diffusion aussi de l'ouvrage, bien sûr, en librairie, mais il est très facile de se le procurer en allant sur le site effectivement des Puffres, où il y a toutes les modalités pour pouvoir acquérir cet ouvrage, mais qui est aussi présent sur d'autres plateformes de distribution bien connues, dont je ne ferai pas nécessairement la publicité ici.
On peut sûrement le retrouver dans les bibliothèques universitaires, je pense, l'Université de Tours.
Tout à fait, bien sûr.
Voilà, donc bonne idée pour lutter contre les fake news, finalement, cet ouvrage aussi.
Oui, alors bon, c'est pas l'ambition de l'ouvrage, mais en tout cas, voilà, il cherche à aussi nourrir la curiosité des gens qui veulent aller effectivement un petit peu au-delà des idées reçues et des clichés sur cette région qui malheureusement en souffre beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Roman Stadnicki et Olivier Sainte-Martin. Vous êtes venus présenter cet abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient par les Presses universitaires François Rabelais. C'est dans la collection Ville et Territoire.